Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposées par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.
Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons donc notre émission sur l'état de l'âme du purgatoire. Donc, nous avons vu dans l'émission de la semaine dernière, nous avons entendu ce témoignage récolté par sœur Emmanuelle Maillard de la communauté des Béatitudes, ce témoignage de Maria Sima. Donc, peut-être vous avez entendu parler de cette mystique. Maria Sima donc, est née le 5 février 1915 en Autriche et décédée le 16 mars 2004. Et donc, Maria Sima a eu ce privilège, on peut le dire, d'avoir une communion particulière avec les âmes des défunts, tout en gardant bien sûr complètement la doctrine catholique, comme nous l'avons entendu dans son témoignage qu'elle a donné à travers cette interview de sœur Emmanuelle Maillard. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie donc à ces vidéos, ces 3 ou 4 vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, sur l'étonnant secret des âmes du purgatoire, sœur Emmanuelle Maillard. Donc voilà, vous trouverez en intégralité son interview donc de Maria Sima, parce que comme elle le dit elle-même, donc sœur Emmanuelle a eu connaissance de cette mystique et sachant qu'elle était encore en vie, eh bien l'a contactée pour lui poser des questions, pour avoir aussi voilà son témoignage sur ce phénomène particulier que Dieu a permis. C'est pas elle qui s'est choisie, c'est pas elle qui a fait des choses extraordinaires ou particulières pour entrer en communion avec les âmes du purgatoire, mais c'est une grâce que le Seigneur lui a donnée et qui est une grâce pour nous, pour déjà peut-être bien nous aider à découvrir la réalité du purgatoire, que ce n'est pas une doctrine du passé, mais c'est bien et bien réel, et c'est un lieu aussi de grâce, c'est un lieu de miséricorde, comme nous le savons. Les âmes du purgatoire donc sont dans cet état. Déjà, elles savent qu'elles sont sauvées, appelées à la béatitude, mais encore entachées des péchés qui n'ont pas pu être expiés sur la terre. Alors, il convient maintenant de nous pencher sur une autre œuvre de miséricorde, puisque, bien sûr, prier pour les âmes du purgatoire, faire célébrer des messes pour les âmes du purgatoire est très importante. C'est ce que nous avons vu dans nos dernières émissions. Il y a aussi un autre exercice de piété qui est celle d'offrir pour les âmes du purgatoire ce qu'on appelle les indulgences. Alors, nous allons voir dans cette émission, et je pense aussi dans l'émission de la semaine prochaine, qu'est-ce que signifient ces indulgences dans l'Église catholique. Voilà, donc nous abordons le thème des indulgences dans l'Église catholique. Ces indulgences donc sont des grâces de miséricorde de l'Église, comme on dit, qui a reçu le pouvoir du Christ lui-même de lier et de délier. Et les indulgences sont donc la remise de la peine, parce que comme nous l'avons vu aussi, je le répète, le péché entraîne 2 conséquences. Donc, bien sûr, la première conséquence, c'est la faute, la faute du péché, de l'acte qui a été commis, de l'offense qui a été commise envers Dieu, envers nous-mêmes ou envers le prochain. Et cette faute est remise par la miséricorde du Seigneur, en l'occurrence par le sacrement de la réconciliation, si c'est un péché grave. Mais en plus de la faute, il y a aussi la peine du péché. Cette peine est là comme un acte réparateur, comme une conséquence aussi du péché. Par exemple, si on a volé de l'argent, eh bien, voilà, il est bon de restituer l'argent qu'on a volé, ou bien, voilà, d'une manière ou d'une autre, de faire un acte de charité proportionné aussi à la somme, à ce qu'on a volé. Alors, c'est l'exemple le plus courant, mais pour tout péché, il y a aussi ce double effet négatif du péché. Le premier, donc, la faute, qui rejoint la culpabilité du péché, et ensuite la peine du péché. Alors, qu'est-ce que l'indulgence ? Eh bien, l'indulgence, c'est la remise de la peine comme un acte réparateur des conséquences du péché. Pour l'Église, tout péché, même pardonné, entraîne un devoir de réparation de ce qu'il a détruit. Et donc, la grâce de l'indulgence, eh bien, c'est cette grâce qui permet que, eh bien, par l'intermédiaire de l'Église qui implore la miséricorde du Seigneur, c'est l'Église elle-même qui, quelque part, se charge de cette purification de la peine. Alors nous allons entrer peut-être plus profondément dans ce que signifient ces indulgences. Et il y a un manuel qui a été réédité au moment du grand jubilé de l'an 2000. Donc le manuel des indulgences, normes et concessions. Vous pouvez le trouver sur Internet, vous pouvez le commander, c'est très instructif pour déjà comprendre ce que sont les indulgences et pour aussi comprendre comment pouvoir bénéficier aussi de l'indulgence, qu'elle soit plénière ou partielle, comme on va le voir. Alors, l'indulgence, eh bien, pour nous, elle est importante parce que, bien sûr, elle fait partie de l'exercice de notre foi qui nous invite à nous tourner vers la miséricorde, à supplier la miséricorde pour nous-mêmes et pour les défunts. Alors nous allons lire ensemble ce décret qui est dans la quatrième édition du manuel des indulgences, qui donne justement l'interprétation juste de cette grâce de miséricorde donnée par l'Église. Les mérites infinis de Jésus, divin rédempteur du genre humain, et ceux qui en dérivent avec surabondance chez la Vierge Marie et tous les saints, sont confiés à l'Église du Christ, comme un trésor inépuisable, pour qu'en vertu du pouvoir de lier et de délier, attribué par le fondateur de l'Église, c'est-à-dire le Christ, à Pierre et aux autres apôtres, et par eux à leurs successeurs, les souverains pontifes et les évêques, ils soient appliqués en rémission des péchés et des conséquences des péchés. Cela se réalise avant tout et de façon indispensable quand il s'agit des péchés mortels à travers le sacrement de la réconciliation. Comme on l'a dit, tout péché mortel doit être confessé. Mais une fois la faute remise par le sacrement de la réconciliation, eh bien, demeure encore la peine réparatrice. Cependant, malgré la rémission aussi bien de la faute mortelle et donc nécessairement aussi de la peine éternelle méritée par cette faute, que la faute légère ou péché véniel, le pécheur, bien que pardonné, peut avoir encore besoin de purification. Il faut encore être tenu de purger une peine temporelle, soit dans la vie terrestre, soit dans l'autre vie, par l'état de purgatoire. L'indulgence qui découle de l'admirable trésor de l'Église mentionné plus haut remplace en éliminant cette peine temporelle. Par conséquent, la doctrine de foi sur les indulgences et leur louable pratique confirme les mystères si consolant du corps mystique du Christ et de la communion des saints, et elle applique ces mystères avec une spéciale efficacité pour obtenir la sainteté. Tout cela a été abondamment enseigné par les souverains pontifes, en particulier plus récemment par le pape Jean-Paul II dans la bulle d'indiction du Grand Jubilé de l'an 2000, Incarnationis Mysterium. En conformité donc avec cette expression du magistère, la pénitencerie apostolique met à profit l'occasion offerte par le Saint Jubilé, désormais imminent. Donc, je rappelle que les jubilés dans la tradition de l'Église sont aussi des grâces particulières de miséricorde. Tous les 25 ans, il y a donc la grâce de célébrer le grand jubilé de l'incarnation. Donc le dernier grand jubilé, c'était bien sûr en l'an 2000, et le prochain, pour nous, désormais tout proche, ça sera donc l'année prochaine, en 2025. Donc, je le rappelle, déjà le pape François nous invite à consacrer cette année, donc l'année 2024, comme une année préparatoire par la prière, donc à ce grand jubilé, donc de 2025. Le jubilé, donc, est appelé communément aussi une année sainte, non seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté de vie. Il a été institué en effet pour consolider la foi, favoriser les épreuves de la solidarité et la communion fraternelle au sein de l'Église et dans la société, pour rappeler et encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus cohérente dans le Christ unique Sauveur. Donc nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur la signification de ce jubilé, puisque l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, nous aurons la grâce de pouvoir célébrer ce grand jubilé de l'incarnation. Mais donc les indulgences ne sont pas liées uniquement, bien sûr, au jubilé. Comme nous allons le voir, nous pouvons, c'est un trésor, un puits de miséricorde qui nous est donné gratuitement par l'Église. Alors, on peut objecter des fois ce côté un peu de facilité de la rémission, même de la peine du péché. Mais nous allons le voir, c'est pour pouvoir prétendre recevoir la grâce de l'indulgence, donc il est quand même demandé des conditions très particulières. Tout d'abord, la première de toutes les conditions, c'est d'être détaché du péché, de toute affection au péché. C'est-à-dire d'avoir une contrition parfaite de nos fautes et de prendre la ferme résolution de ne plus retomber dans ces péchés. Donc, à la fois le dégoût de notre péché et en même temps la résolution de faire pénitence aussi et de conversion pour ne plus retomber dans le même péché. Ce qu'on appelle la contrition parfaite. Et puis ensuite, d'autres indications qui sont demandées pour l'acquisition des indulgences, eh bien c'est la Sainte Communion, pouvoir aussi communier et prier aux intentions du Saint-Père, et puis ensuite accomplir une démarche, soit une démarche jubilaire, soit en l'occurrence dans une fête liturgique particulière comme le 2 novembre, par exemple, c'est la visite au cimetière, la prière pour les défunts. Donc, il y a des circonstances particulières aussi pour pouvoir bénéficier de cette grâce de l'indulgence. Alors, je reviens un instant sur cette grâce de l'indulgence. Il ne s'agit pas donc d'une facilité pour effacer la faute, mais c'est l'Église elle-même qui prend sur elle la peine temporelle du péché. L'indulgence qui découle de l'admirable trésor de l'Église mentionné plus haut, donc ce pouvoir de lier, de délier qui a été donné par Jésus lui-même à l'apôtre Pierre, à ses successeurs et à toute l'Église, remplace en éliminant cette peine temporelle. Donc c'est l'Église elle-même qui, cette grâce de pouvoir délier, eh bien, remplace en éliminant cette peine temporelle. Donc c'est vraiment une miséricorde, ce qu'on appelle une miséricorde de l'Église. Par conséquent, la doctrine de foi sur les indulgences et leur louable pratique confirme les mystères si consolants du corps mystique du Christ. Rappelons-nous cette vision aussi que nous donne saint Paul, le corps mystique. Quand un membre s'élève, le corps tout entier s'élève. Quand un membre tombe, eh bien c'est le corps tout entier aussi qui en pâtit, qui en souffre. Donc nous sommes liés les uns aux autres par cette réalité du corps mystique que nous formons grâce au baptême. Entrons maintenant dans le chapitre sur les normes des indulgences. L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacée quant à la faute, que le fidèle bien disposé et à certaines conditions déterminées reçoit par l'intervention de l'Église qui, en tant que ministre de la rédemption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière, selon qu'elle libère en partie ou totalement de la peine temporelle due pour les péchés. Tout fidèle peut gagner des indulgences partielles ou plénières pour lui-même ou les appliquer aux défunts par mode de suffrage. Au fidèle qui, au moins le cœur contrit, accomplit une œuvre à laquelle est attachée une indulgence partielle, est appliquée par l'Église la remise d'une peine temporelle de même valeur que celle qu'il obtient déjà par son œuvre. Pour avoir capacité à gagner des indulgences, bien sûr, il faut appartenir à l'Église, il faut être baptisé, non excommunié et en état de grâce, c'est-à-dire avoir reçu la grâce du sacrement de la réconciliation. Cependant, pour qu'un sujet capable gagne des indulgences, il doit avoir l'intention au moins générale de les acquérir et d'accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite selon la teneur de la concession. L'indulgence plénière ne peut être acquise qu'une seule fois par jour. L'indulgence partielle peut l'être plusieurs fois. Cependant, le fidèle peut obtenir l'indulgence plénière in articulo mortis, donc à l'article de la mort, même s'il a déjà acquis l'indulgence plénière en ce même jour. L'œuvre prescrite pour acquérir l'indulgence plénière attachée à une église ou à un oratoire consiste à y faire une pieuse visite au cours de laquelle on récite le Notre Père et le symbole de la foi, le Credo, à moins que la concession n'en dispose autrement. Par exemple, dans le cas de visite d'un sanctuaire, ou comme ça l'a été pour nous ici dans toutes les églises franciscaines pendant le temps de Noël, puisque nous fêtions les 800 ans de la crèche, donc la visite d'une crèche dans une église franciscaine. Tout ça, ce sont des dispositions données par l'Église, par la pénitencerie apostolique. Donc, prier donc le Notre Père, le symbole de la foi, le credo, et aussi s'acquitter aussi de la prescription qui est donnée pour la démarche de l'indulgence. Pour gagner l'indulgence plénière, en plus d'exclure toute affection au péché, même vénielle, il est requis d'accomplir l'œuvre indulgenciée et de remplir les trois conditions, confession sacramentelle, communion eucharistique et prière aux intentions du souverain pontife. Avec une seule confession sacramentelle, on peut acquérir plusieurs indulgences plénières, mais avec une seule communion eucharistique et une seule prière aux intentions du souverain pontife, on n'acquiert qu'une seule indulgence plénière. La condition de prier aux intentions du souverain pontife est remplie si l'on récite à son intention un Notre Père, un Je vous salue Marie. Cependant, les fidèles sont libres aussi de réciter toute autre prière selon la piété et la dévotion de chacun. On ne peut gagner une indulgence avec une œuvre à laquelle on est obligé par une loi ou un précepte, à moins que dans la concession de celle-ci, il ne soit dit expressément le contraire. Toutefois, celui qui accomplit une œuvre imposée comme pénitence sacramentelle, et qui est éventuellement enrichie d'indulgence, peut à la fois satisfaire à la pénitence et gagner les indulgences. De même, les membres d'instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique peuvent gagner les indulgences par des prières et des œuvres pieuses qu'ils sont tenus d'offrir ou d'accomplir en vertu de leurs règles, de leur constitution ou de tout autre précepte. La récitation de la prière peut être faite en alternance avec un compagnon, ou le fait de la suivre aussi mentalement, tandis qu'un autre la récite, suffisent pour gagner des indulgences. Voyons maintenant les concessions des indulgences. Une indulgence partielle est accordée aux fidèles qui, accomplissant ses devoirs et supportant les adversités de la vie, élève son âme vers Dieu avec une humble confiance en ajoutant, ne serait-ce que mentalement, une pieuse invocation. Par cette première concession, les fidèles sont conduits, en quelque sorte, à mettre en pratique le commandement du Christ. Il est nécessaire de prier sans cesse et de ne pas se décourager. En même temps, ils sont exhortés à s'acquitter de leurs devoirs d'une façon telle qu'ils gardent et accroissent leur union au Christ. L'esprit dans lequel l'Église concède cette indulgence est parfaitement illustré dans les passages suivants de la Sainte Écriture. Par exemple, dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. » Ou bien Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Ou encore dans l'Évangile de Saint Luc, « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans le souci de la vie, mais restez éveillés dans une prière de tous les instants. » Les Actes des Apôtres également, aussi, au chapitre 2, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Alors, nous voyons qu'il y a beaucoup de sources bibliques, en particulier dans le Nouveau Testament, qui nous invitent justement à cette prière assidue, et pour nous-mêmes, mais aussi, bien sûr, pour ceux et celles à qui nous voulons faire adresser nos prières, en particulier pour les défunts. Donc la grâce de ces indulgences, eh bien, elle manifeste vraiment cette miséricorde du Seigneur qui surabonde dans notre vie. Et nous allons le voir que les indulgences nous sont données avec une grande largesse. Il ne s'agit pas seulement de quelques jours dans l'année, mais il y a aussi plein d'occasions dans lesquelles nous pouvons aussi bénéficier de cette miséricorde du Seigneur, de cette miséricorde du Seigneur qui passe, encore une fois, par son Église. Dans les actes du Concile Vatican II, on lit ceci. « Ainsi donc, tous les fidèles du Christ se sanctifieront chaque jour davantage dans les conditions, les charges et les circonstances de leur vie. Et grâce à tout cela, ils acceptent tout avec foi de la main du Père Céleste, et s'il coopère à la volonté de Dieu en manifestant à tous, dans le service temporel lui-même, l'amour dont Dieu a aimé le monde. » Cette vie intime d'union avec le Christ dans l'Église est entretenue par les secours spirituels qui doivent être utilisés par les laïcs de telle sorte que, tout en remplissant de façon convenable les obligations du monde dans les conditions ordinaires de leur vie, ils ne dissocient pas l'union au Christ et leur vie, mais en accomplissant leur œuvre selon la volonté de Dieu, ils grandissent encore dans cette union. Ni les soins de leur famille, ni les autres affaires temporelles ne doivent être étrangers à leur vie spirituelle. Selon cette parole de l'apôtre, « Tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc voilà, nous sommes invités par l'Église, par ces textes du Concile aussi, à incarner notre foi chrétienne dans toutes les circonstances de notre vie. Ni le soin de leur famille, ni les autres affaires temporelles ne doivent être étrangers à leur vie spirituelle, selon les mots de l'apôtre. Donc voilà, demandons cette grâce au Seigneur alors de pouvoir entrer dans cette vie de sanctification. Vraiment, c'est ça le but, le but de toutes ces recours de miséricorde qui nous sont donnés, eh bien, c'est pour que nous donner vraiment tous les moyens de sanctification, pour que nous puissions avancer dans la vie de la sainteté. Voilà, nous parcourrons encore la semaine prochaine ce manuel des indulgences. Et donc, nous pouvons déjà aussi, en ce temps de grâce qui nous est donné par la liturgie, entrer dans cette miséricorde aussi, par la sainte confession, par les œuvres de charité, par les œuvres d'aumône, et aussi par nos prières, nos prières en particulier aussi pour les âmes du purgatoire. Alors, entrons dans cette communion spirituelle les uns avec les autres pour la sanctification du corps entier de l'Église. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour poursuivre ensemble cette réflexion sur la grâce de la miséricorde donnée par les indulgences. Bonne semaine à vous tous.
Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposées par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.